Bonjour. Donc, je vais essayer en une heure de vous introduire dans un très vaste programme, c'est-à-dire à la fois ce que nous avons appelé la France-Afrique, c'est-à-dire ce côté néocolonial et en voie d'oppression et de pillage des anciennes colonies françaises d'Afrique. Puis je montrerai que la mondialisation est aussi en train de gagner ce système qui devient une sorte de mafia afrique internationale. Et puis, après avoir montré que tout cela s'inscrivait dans une dérive qui nous concerne tous, y compris au Nord, qui est celle des mondes sans loi, des paradis fiscaux, de la destruction de l'argent et des biens publics, je me tournerai vers un aspect plus optimiste, qui est le début de conquête des biens publics à l'échelle mondiale, et je terminerai en vous indiquant quelles vont être les trois grandes campagnes de notre association survie durant l'année 2004, parce qu'elles sont toutes les trois au cœur de ces problématiques. Au passage, quelques mots sur l'association survie. Elle est née en 1981 de l'appel de 126 prix Nobel contre la faim, l'extrême misère et pour le développement. Et en fait, ce que disaient les prix Nobel, qui me paraît très important, c'est que les problèmes de l'extrême misère dans le monde, de la faim dans le monde, ne sont pas des problèmes qui ressortent de la charité individuelle, mais de décisions collectives, c'est-à-dire ce qu'on appelle la politique, qui est un mot parfois dévalorisé, mais la politique, c'est aussi l'art du vivre ensemble. Et en l'occurrence, il y a toute une partie de la planète qui est exclue de l'accès aux biens les plus vitaux ou les plus élémentaires. Donc pendant 10 ans, nous nous sommes battus en France pour faire en sorte que l'aide publique au développement, la générosité collective des Français, environ 35 à 40 milliards de francs à l'époque, servent un peu plus, soient orientés, coordonnés, plus méthodiquement, pour servir à lutter contre l'extrême misère, la faim, la pauvreté. Nous avons, avec les meilleurs experts français et avec un certain nombre de parlementaires, rédigé une proposition de loi pour changer radicalement l'aide publique au développement, qui a obtenu, fait assez inédit, le soutien des pratiquement les trois quarts des députés, toutes tendances confondues. Cette proposition de loi n'a jamais été mise à l'ordre du jour, malgré la mobilisation de tous les footballeurs professionnels français, enfin un certain nombre d'actions, je ne vais pas vous rappeler. Et là, on a commencé à se rendre compte que, pour faire bref, si l'exécutif français ne voulait pas toucher à cette aide publique au développement, c'est parce qu'il touchait. C'est-à-dire qu'en fait, la corruption n'était pas marginale, mais centrale. Vous savez qu'il y avait de la corruption, en fait, elle était centrale au mécanisme de l'aide publique au développement. Donc nous avons commencé à expliquer ce qu'étaient ces mécanismes de détournement et de pillage. Et puis, en 1994, donc ça c'était en 93, en 94 est survenu le génocide d'un million de Tutsis au Rwanda, dont je vous reparlerai, dans lequel la France a été totalement complice, qui est le plus grand crime français du XXe siècle probablement, et puis aussitôt enchaîné avec la réhabilitation de Mobutu par la France au Zaïre et le soutien au nettoyage ethnique du Sud-Soudan. Alors là, on s'est dit, c'est pas seulement une criminalité économique, c'est aussi une criminalité politique qui va de pair, et qui est une criminalité politique épouvantable, puisqu'elle peut aller jusqu'à soutenir des génocides. Donc, à partir de ce moment-là, on a appliqué, en quelque sorte, le premier principe de la médecine, le début du serment d'Hippocrate, d'abord ne pas nuire. Avant de songer à aider, il faut d'abord voir comment on fait pour éviter d'encourager des dictatures, des mécanismes d'oppression, de police politique, de torture, de censure et de pillage. Et c'est à ce moment-là que nous avons rajouté à nos statuts, notamment, la lutte contre cette France-Afrique, ces mécanismes de relations franco-africaines absolument insupportables. Alors, je vais vous présenter ça rapidement. Quelques précautions oratoires avant de me lancer là-dedans. Un certain nombre de choses vous paraîtront incroyables. Ne vous étonnez pas, nous on a mis 10 ans à les voir. C'est-à-dire que pour voir un certain nombre de choses dont le fonctionnement, dont la logique, l'illégalité, le cynisme ne sont pas défendables, ces choses-là, forcément, sont cachées. Elles n'apparaissent pas aux yeux du public. D'autant que, là on pourrait aussi en parler très longuement, les journalistes qui interviennent dans ces relations franco-africaines, pour une bonne part d'entre eux, sont tenus de diverses manières et ne vont pas forcément vous informer. Je pourrais en donner des centaines de preuves, mais ça nous entraînerait trop loin. Donc, si tout ça vous paraît incroyable, c'est tout simplement parce que ce n'est pas visible à l'œil nu. Il faut beaucoup de travail, de recherche, de croisement d'informations pour finir par regarder cette réalité. Mais ce que je peux dire, c'est que quand nous l'avons écrite, déployée progressivement, d'abord avec nos dossiers noirs, puis avec la France-Afrique et Noir Silence, une grande majorité des Africains sont venus nous dire que c'était exactement cela qu'ils vivaient. Et je dirais que c'est quand même la première des vérifications. Ensuite, l'autre précaution oratoire, c'est que je parlerai surtout des responsabilités occidentales et françaises, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas de responsabilité africaine, bien sûr, et notamment des complices de ce système. Mais comme ça, vous le connaissez depuis longtemps, et puis qu'aujourd'hui, la mode même revient de dire que tout ça est de la faute des Africains, je préfère ne pas aborder ce sujet, puisque là-dessus, vous êtes suffisamment, pour ne pas dire trop, informés. Et puis, troisième précaution oratoire, c'est que, forcément, en résumant en une heure à peu près 10 000 pages de travaux, ce sera parfois un peu caricatural, mais c'est la loi du genre. Donc, qu'est-ce que c'est que cette France-Afrique? Comme on disait dans la cassette, c'est le résultat du choix stratégique fait en 1960 par le général de Gaulle. Il est acculé à accorder les indépendances au peuple d'Afrique, ancienne colonie, et à ce moment-là, il décrète donc une nouvelle légalité internationale, l'indépendance, et en même temps, il charge son bras droit Jacques Faucard de mettre en place tout un mécanisme de maintien de la dépendance. Et donc, tout en fait provient de là, parce que si vous maintenez la dépendance alors que vous déclarez l'indépendance, vous êtes en situation d'infraction par rapport à la légalité internationale. Donc vous êtes obligé de faire ça de manière cachée, secrète, occulte. Par les méthodes qui sont les méthodes classiques des services secrets dont Faucard était en quelque sorte le parrain. Donc vous avez en fait, depuis ce moment-là, ce que j'appelle cet iceberg de la relation franco-africaine, avec les 10% apparents, la France qui a décrété généreusement les indépendances, meilleur ami de l'Afrique, avocate de l'Afrique dans les instances internationales, etc., patrie des droits de l'homme, et en même temps, vous avez 90% qui est l'essentiel de la vraie relation, qui est une relation qu'on peut dire proprement néocoloniale. Alors, comment a-t-on installé cette relation par ce qu'on a appelé aussi les réseaux Faucard? Premièrement, par la et pour quelles raisons? Je vais commencer par les raisons, parce que c'est plus rapide et plus simple. Il y avait 4 raisons à cette négation des indépendances. Il y avait le rang de la France à l'ONU avec un cortège d'États clients. Il y avait l'accès aux matières premières stratégiques, le pétrole, l'uranium, Niger, etc. et aux matières premières juteuses comme le cacao, le bois, etc. Il y avait le financement parallèle des activités politiques du gaullisme, puis progressivement de l'ensemble des partis du gouvernement. Et puis une 4e raison que j'ai découvert sur le tard, mais qui est sans doute tout aussi importante, sinon peut-être la plus importante, c'est une sous-traitance de la part de la France dans la guerre froide qui a mobilisé les énergies militaires et autres pendant près d'un demi-siècle. Et donc, pour ces raisons, la France était chargée d'une partie du continent africain et y a déployé les méthodes de la guerre froide dont on sait qu'elles n'étaient pas de dentelle. Comment a-t-on fait Tout d'abord, on a sélectionné un certain nombre de chefs d'État amis de la France pour en faire, en quelque sorte, des gouverneurs ou des proconsuls à la peau noire. Et là, effectivement, c'est une opération tout à fait remarquable qui nous a trompés pendant longtemps, parce qu'on a l'impression que ces pays sont dirigés par des dirigeants africains, même s'ils ne sont pas de bons dirigeants. Sauf que, quand on relit précisément l'histoire de chacun d'eux, ils ont été initiés et sélectionnés dans les écoles Focard ou autres, parfois des personnages tout à fait phallos, montés en épingle, et ces gens-là, qui ont souvent la nationalité française, qui sont parfois des services secrets français, comme l'a avoué Omar Bongo, sont à la limite beaucoup plus français qu'africains, puisqu'ils sont très souvent en France, ils se soignent en France, ils font élever leurs enfants en France, et par conséquent, la décrépitude de l'éducation ou de la santé dans leur pays n'est pas vraiment leur premier souci. Ces chefs d'État, on les a sélectionnés d'abord en déployant un rouleau compresseur de massacres et de terreur sur la plus grande révolution indépendantiste en Afrique, qui était celle du Cameroun, menée par un personnage hors du commun, Ruben Niobe, quelqu'un de l'ampleur d'un Mandela. Pendant 13 ans, 14 ans, la France, avec ces fameux tirailleurs sénégalais, comme on disait, c'est-à-dire ces supplétifs, a écrasé cette rébellion avec des méthodes dignes de la guerre du Vietnam, des dizaines et des dizaines d'oradours sur glane, peut-être 400 000 morts, on ne sait pas le chiffre exact, et un épisode de crime contre l'humanité dont qui figure dans aucun manuel d'histoire en France. Ça a servi de leçon ailleurs, là où les peuples avaient porté des dirigeants tout à fait honorables qui étaient leur propre choix, on les a tout simplement éliminés, comme quatre sergents-chefs venus de franco-togolais, revenus de la guerre d'Indochine et d'Algérie, ont assassiné en 1963 le président élu Sylvanus Olympio et l'un d'entre eux, l'assassin d'ailleurs, Étienne Nassimbé Eyadema, est toujours 40 ans après, plus de 40 ans après, au pouvoir au Togo. En Centrafrique, il y avait aussi un homme d'État remarquable, Barthélemy Boganda. Il est mort dans un accident d'action d'avion suspect. Ailleurs, pour installer les amis de la France, on a retourné certains leaders, comme vous pouvez le voir, qui étaient au départ un leader anticolonialiste et qui est devenu le meilleur ami de Focard et le meilleur relais de Focard grâce à un certain nombre de moyens de chantage, où on a procédé, comme d'habitude, et comme ce sera, comme ça s'avérera par la suite, par des élections truquées, dont Focard, issu de l'outre-mer, était déjà un grand spécialiste. C'est aussi une des grandes spécialités du gaullisme. Donc, on a mis partout ces relais de la France. Il n'y en a qu'un seul qui a dit non et qui a essayé de se dépêtrer, c'est Koutouré, mais il a connu en l'espace de 2 ou 3 ans tellement de vrais complots de Focard, qu'il a fini par devenir paranoïaque, voire des vrais complots, des faux complots, pardon, et se retourner aussi parfois contre sa propre population et contre les propres soutiens de son indépendance. Donc un succès quasi total, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que cette France-Afrique n'est pas que politique, elle est aussi financière, économique, militaire, barbouzarde, policière, etc. Ce qu'il faut voir, j'aurai l'occasion peut-être d'y revenir, c'est que tous les théoriciens du contrôle des populations par la terreur, dont on sait qu'ils ont fait leur preuve ou leur laboratoire en Algérie avant d'enseigner ces méthodes dans toute l'Amérique latine, voire même aux Américains pour le Sud-Vietnam, ces gens-là qui avaient aussi participé au putsch contre De Gaulle et à l'OAS, ont été tous recyclés dans les polices politiques ou le conseil aux armées de ces fameuses néocolonies. Donc, vous imaginez qu'ils n'ont pas eu de difficulté à installer des polices tortionnaires comme au Cameroun ou ailleurs et à déployer leurs méthodes de contrôle de la population et de terreur, d'élimination, dans tous ces pays pour en assurer, entre guillemets, l'ordre. Donc, on a eu, j'allais dire, un déploiement policier et barbouzard considérable à travers toute l'Afrique qui a, en quelque sorte, donné l'ossature de ces régimes. Et chacun de ces chefs d'État, proconsuls ou gouverneurs, en fait, avait autour de lui, à côté de lui, un officier de la DGSE, des services secrets, qui était chargé de sa protection ou de son élimination s'il cessait de plaire. Le jour où Amani Diori du Niger a voulu vendre son uranium à d'autres que des Français, il a été débarqué séance tenante. Et Sylvanus Olympio, le président togolais, était protégé par un officier français qui est en fait celui qui a organisé son assassinat. On pourrait aussi parler des Comores, on pourrait s'étendre très longuement. Donc il y a cette dimension militaro-policiaro-barbouzarde. Et dans le côté militaire, c'est-à-dire la face cachée, il y a cette expansion mercenaire connue par des gens comme Bob Denard ou Paul Baril, c'est-à-dire des gens qui sont apparemment des électrons libres, qui sont des gens qui se font passer pour des espèces de fadas sympathiques, mais qui, en fait, exercent les basses œuvres de la politique française, et chaque fois qu'ils se font pincer, vous voyez défiler à leur procès tous les hauts gradés des services secrets qui viennent vous dire « Denard, un mercenaire ». Mais non, Denard, c'est un corsaire de la République. C'est quelqu'un qui a toujours défendu le drapeau tricolore. Donc, à ces moments-là, on voit leur forêt nature. Les autres aspects de la France-Afrique, c'est le côté économique, c'est-à-dire comment organiser le pillage de ces pays. Alors, tout simplement, en montant un certain nombre d'entreprises qui vont avoir des monopoles dans ces pays et dont certaines d'entre elles sont clairement des relais des services secrets français. Le Floch Prigent, dans ses confessions en prison, a reconnu que ELF avait été créé au milieu des années 60 par De Gaulle pour être, en quelque sorte, le bras financier, le bras opérationnel, un bras opérationnel des services secrets français en Afrique. Et c'est bien ELF, par exemple, qui a financer, aider la guerre d'agression de la France-Afrique contre le Nigeria, qu'on a appelé guerre du Biafra, qui a fait 2 millions de morts, qu'on a transformé, comme souvent, en catastrophe humanitaire, alors qu'il s'agissait tout simplement de s'emparer du pétrole du Nigeria. Et on pourrait aussi multiplier les exemples, j'y reviendrai, sur les nombreux coups d'État, voire guerre civile, dans lesquels ELF a été impliqué tout au long de l'histoire de l'Afrique. Vous avez des grandes entreprises, mais aussi de petites entreprises, par exemple des entreprises de fourniture de biens et services aux missions françaises de coopération, qui facturent 3 fois le prix de leurs services, et dont on s'aperçoit parfois qu'elles sont tout simplement contrôlées par des mercenaires comme Denard et autres, et que ça alimente leurs caisses. Mais il y a aussi de très nombreuses entreprises de sécurité, ce qui est une autre manière de parler du mercenariat, qui sont souvent tenues par d'anciens gendarmes de la cellule de l'Élysée, et vous savez que ces gendarmes ne sont que l'un des aspects de la fine fleur des services secrets français. Donc, on a comme ça tout un dispositif. On a également un dispositif financier. On vous dit, c'est formidable, la France a légué une monnaie à l'Afrique, le franc CFA. CFA, ça veut dire Colonie Française d'Afrique. Et c'était pendant très longtemps, maintenant un petit peu plus difficilement, le principal moyen d'évasion, de détournement des richesses africaines, de l'aide publique au développement, de l'argent de la dette, etc., puisque cet argent était convertible et que parfois certaines aides, soi-disant pour aider un pays à boucler son budget, qui intervenaient avant de grandes échéances électorales en France, ces aides prenait la forme d'un avion chargé de billets CFA 9 qui atterrissait à Abidjan ou Yaoundé et repartait aussitôt vers Genève où l'argent était converti en francs ou en devises au bénéfice du chef d'État africain récipiendaire et du décideur politique français en face. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie considérable de l'aide ou de la dette qui n'a pratiquement qui n'est jamais entré, on peut dire, dans les comptes des pays qui sont soi-disant aidés ou endettés. Donc, vous avez un système global qui est un système, disons, de pillage et d'oppression qui continue les pratiques de la colonisation. C'est pour ça que, bien que moi-même, je vais dire, je n'ai commencé à employer ce terme qu'il y a 4 ou 5 ans, parce qu'il ne s'agit pas de coller des étiquettes idéologiques, je dois reconnaître que ce terme dit clairement ce dont il s'agit. C'est une prolongation de la colonisation, et je dirais presque pire, puisque en même temps, il y a un processus de négation de cette colonisation. Pas de négation de la colonisation actuelle, sans parler des tentatives pour réhabiliter les bienfaits de la colonisation, mais ça on en reparlera, ça fait partie de la guerre psychologique. Donc voilà un peu comment fonctionne cette France-Afrique. Je ne vais pas m'étendre sur son histoire parce qu'elle est détaillée dans mes différents ouvrages, la France-Afrique, etc. etc. Je ne vais pas vous raconter la manière dont par exemple la France-Afrique a décidé de se débarrasser de Sankara, qui était aussi un homme politique tout à fait remarquable, l'histoire des guerres civiles, des crimes qu'elle a soutenus. Je me contenterai de quelques épisodes, parfois plus que des épisodes, pour arriver assez rapidement à la situation actuelle. Un premier épisode, c'est à la fin des années 90, non pardon, des années 80, début des années 90, une poussée considérable en faveur de la démocratie dans ces pays. Il faut dire que la situation s'était considérablement dégradée, puisque d'un côté, on avait donné licence totale aux chefs d'État amis de puiser dans les caisses de l'argent public à condition de partager. Donc peu à peu, la corruption s'est répandue du sommet jusqu'à la base de l'encadrement public. Que d'autre part, ces régimes, qu'on peut dire des régimes rentiers vivant des matières premières et de l'aide publique au développement, n'avaient aucun intérêt à un développement productif, parce que l'histoire montre qu'un développement productif suscite des contre-pouvoirs, que ce soit d'un point de vue économique ou du point de vue des syndicats, des salariés, etc. Si vous permettez que des gens puissent gagner leur vie indépendamment des relations clientélistes avec l'État, vous compromettez quelque part la dictature. Et donc si ces pays ne se sont pas développés, ce n'est pas que les gens ne sont pas capables de le faire, c'est tout simplement qu'on met des bâtons dans les roues à tout projet de développement économique autochtone, tout simplement parce que ce développement est contraire aux intérêts de ceux qui gouvernent ces néocolonies. Et donc, si vous rajoutez à ça l'apparition vers la fin des années 70 de cette nouvelle forme d'aide, entre guillemets, qui est la dette, c'est-à-dire qu'on a dit à ces pays, écoutez, vous n'avez pas assez d'argent, plutôt aux dirigeants, vous n'avez pas assez d'argent à vous mettre dans les poches et nous avec, et donc on va inventer une nouvelle forme d'aide extraordinaire, on va vous prêter à très bas taux d'intérêt, 3%, 2%, 0%, on va appeler cette remise d'intérêt de l'aide publique au développement, et on va déverser beaucoup d'argent. Alors comme cet argent, en fait, il a été pour la moitié directement détourné, pour une autre moitié, il a servi à des projets fastueux, des projets qui n'ont rien à voir avec un développement. Il peut avoir servi à acheter un avion présidentiel, à bâtir un palais, ou même à mettre en place, pour le plus grand bénéfice de Bouygues et compagnie, un institut d'enseignement supérieur, dont le coût d'entretien sera supérieur au budget d'éducation et qui ne sera pas entretenu, etc. Quand vous faites le bilan de l'usage de cet endettement, il reste pratiquement rien. Donc, même si c'est à un taux très faible, quand il faut rembourser, en fait, vous n'avez rien produit qui permette de rembourser, et ces pays se trouvent complètement plombés par ce nouveau cadeau qu'on a fait. Et par conséquent, on s'aperçoit que dans beaucoup de pays, à la fin des années 1980, etc., on s'est trouvé dans une situation de dégradation économique considérable. Et à ce moment-là, les stratèges de la France-Afrique ont restauré une technique bien huilée depuis la colonisation qui consiste à diviser pour régner, ou si on veut dire, si on peut dire autrement, la technique du bouc émissaire. On a poussé un certain nombre de régimes à tenir le discours suivant, non pas « soutenez-moi, votez pour moi parce que je vais faire le bien du pays ou assurer son développement », mais tout simplement « soutenez-moi parce que si ce n'est pas moi qui reste au pouvoir, ce sera l'ethnie haï qui va le prendre à ma place et qui va vous prendre tous vos postes, vous ôter le pain de la bouche, et, voire même vous assassiner. Vous connaissez parfaitement ce type de raisonnement, il est assez universel et on le voit à l'œuvre jusque chez nous. » Donc, d'un côté, il y a eu cette espèce de pousse au crime politique. De l'autre côté, on a mis en place une parade au discours de la face émergée d'iceberg, qui était le discours de 1990, le discours de la Baule de Mitterrand, encourageant la démocratie en Afrique. En même temps, avec l'argent de la coopération, on s'est mis à financer les élections, les bulletins, les urnes, le transport, enfin les enveloppes, etc., etc. La France a dit « je vais aider ces pays à conquérir la démocratie ». Et en même temps, chaque fois qu'il y avait des élections majeures, à part une ou deux fois au début où on s'est fait surprendre comme au Bénin, chaque fois on a eu le même scénario. Trafic sur les listes électorales, trafic sur la Constitution avec les meilleurs juristes français, et pour finir, installation dans chacune des capitales d'une cellule spéciale de traitement des résultats. Alors d'un côté, les gens veillaient jour et nuit auprès des urnes pour essayer d'empêcher leur bourrage et pour affirmer leur volonté d'en finir avec la dictature. Et de l'autre, on envoyait des gens des réseaux Pasqua ou des gens formés à la mairie de Paris, dont vous savez qu'elle est une grande spécialiste. Par exemple, Jérôme Grandénon, qui est le principal conseiller électoral de Jacques Chirac depuis longtemps et qui est devenu maintenant, devinez quoi, directeur juridique de Bercy, c'est-à-dire chargé des marchés publics. Eh bien, on envoie des spécialistes de ce genre faire en sorte que, à travers la centralisation informatique des résultats, là où les gens votaient à 80% pour se débarrasser de la dictature, le dictateur se retrouvait avec 80% ou 52% s'il était modeste. Et donc, en quelque sorte, on est passé de la dictature à la démocrature, c'est-à-dire une dictature qui est légitimée dans les urnes, ce qui est encore pire qu'avant, parce qu'au moins la dictature, on savait ce que c'était. Et tout cela, ça s'est fait dans la quasi-totalité des élections majeures dans ces pays depuis 1990, que ce soit le Cameroun, le Togo, le Congo-Brazzaville a une exception sur laquelle je reviendrai, le Gabon, la Mauritanie, Djibouti, etc., etc. Il y a eu, heureusement, depuis 3 ou 4 ans, des exceptions tout à fait notables et qui montrent que les gens ne se laissent pas forcément faire. Il y a eu le Niger, où Focard avait soutenu l'installation d'un général, Ibrahim Paré Maïnassara. Après 3 fours d'électoral, les officiers lui ont dit « c'est assez » et l'ont débarqué. Aussitôt, la France a crié à l'interruption du processus démocratique, puisqu'on renversait un dictateur, et coupé sa coopération. Du coup, les officiers ont organisé des élections qui ont été les plus incontestées d'Afrique pratiquement depuis 40 ans, pas un bulletin contesté, sans la coopération française évidemment. Ensuite, il y a eu le Sénégal, qui était un régime que j'appelais la France-Sénégal, un régime archi-corrompu et frauduleux au niveau des élections, où une alliance désireuse d'en sortir, une alliance politique et des syndicats, de la société civile, etc., s'est organisée pour jumeler les radios locales et les téléphones portables, de telle manière à annoncer les résultats sortis des urnes immédiatement et à empêcher la fraude dans la centralisation des résultats. Moyennant quoi, depuis lors, tous les pays démocrateurs se sont empressés soit de retarder ou contrôler le développement du téléphone portable, soit d'interdire ou de contrôler les radios locales en ayant compris comment, en fait, il y avait moyen de contourner le mécanisme de fraude électorale. puis, encore un exemple aussi tout à fait extraordinaire, qui est la mobilisation non violente pendant 6 mois à Madagascar de la population pour faire valoir l'élection de Marc Ravalomanana contre le dictateur Ratsirak. Alors, il ne s'agit pas de dire que Ravalomanana est un saint. Chaque fois qu'on élit quelqu'un en politique, c'est pas toujours le meilleur choix, c'est parfois le moins mauvais. Mais il n'empêche que cette mobilisation sans précédent a fait très peur à tous les dictateurs d'Afrique, parce qu'ils se sont rendus compte que une mobilisation d'un peuple qui a su résister à toutes les provocations, et faire une mobilisation telle que chaque fois que Ratsirak voulait envoyer l'armée ou ses commandos contre la foule, il y avait toujours une femme ou une fille de général pour téléphoner depuis la foule jusqu'au mari ou au père en disant « Nous sommes dedans, si vous tirez, c'est sur nous que vous tirez ». Peu à peu, cette mobilisation non violente exceptionnelle a fait que les généraux, l'un après l'autre, ont basculé, ont changé de camp, et que d'une manière qui a épargné une guerre civile, comme on en a connu souvent ailleurs, le peuple a fait reconnaître son choix. Rien n'est jamais acquis. On pourrait citer des exemples comme le Congo-Brazzaville, sur lequel je vais revenir, ou le Bénin, où parfois, après un moment de démocratie, on se retrouve dans les mécanismes antérieurs. Mais au moins, pendant un moment, le peuple a pu montrer qu'il était capable de choisir ses dirigeants. Et ça, je considère que c'est le degré 1 de l'indépendance, alors que dans beaucoup de pays anciennement colonisés, on est encore dans le degré 0. Je continue dans ces exemples actuels. Il y en a un sur lequel que j'évite d'aborder parce que d'une part il est extrêmement connu et il faudrait y consacrer au moins une conférence débat entière, tellement c'est quelque chose de majeur, c'est le Rwanda. C'est l'un des 3 ou 4 génocides du XXe siècle, le plus rapide de l'histoire en termes d'efficacité, avec l'invention d'une 4e arme de destruction massive. On connaissait les armes nucléaires, les armes chimiques, les armes biologiques. Et là, on a fait encore plus fort. On a inventé comment, avec un mélange de haine et de peur savamment distillé sur les radios, comment mobiliser la moitié de la population pour exterminer une minorité. Et ça, c'est un crime épouvantable. La France était totalement complice de cette évolution et pendant tout le génocide, elle a aidé ceux qui le commettaient militairement, financièrement, diplomatiquement et idéologiquement. Tout cela est caché, a été voilé, notamment par la mission d'information parlementaire, et pendant une semaine, la semaine prochaine, nous allons, avec plusieurs autres associations, tenir une commission d'enquête citoyenne pour examiner l'ensemble des pièces qui démontrent cette complicité française dans ce crime épouvantable, abominable. Nous allons y être aidés par la publication le 25 mars d'un livre totalement prodigieux, que je vous conseille d'acheter d'urgence, dès qu'il paraîtra, qui est « L'inavouable » de Patrick de Saint-Exupéry, reporter au Figaro, donc pas vraiment gauchiste, qui s'était déjà signalé en 1998 pour le centenaire de J'accuse, avec la publication d'une série d'articles sur les complicités de la France dans le génocide, et qui là montre que c'est encore bien pire que tout ce que l'on avait imaginé. Il le démontre grâce aux confidences d'un certain nombre d'officiers tout à fait écœurés ou indignés par ce qui s'est passé. Il montre tout simplement que cette fameuse école d'officiers de la guerre révolutionnaire ou de la guerre antisubversive ou de la guerre psychologique qui avait fait parler d'elle au moment de l'Algérie, que cette école, en fait, internationalement reconnue comme la meilleure en la matière, et qui s'était répandue dans tout le monde occidental, s'est en fait transmise, a transmis sa doctrine à l'intérieur des forces spéciales, 3 ou 4 000 hommes, de l'infanterie de marine, de la Légion, etc. Et que ces gens-là ont fait adopter par Mitterrand de se servir en quelque sorte du Rwanda comme un laboratoire de leurs essais en matière de cocktails de haine et de peur, de manipulation médiatique, et qu'en quelque sorte, ce sont les officiers français, avec la bénédiction de Mitterrand et de la classe politique française, qui ont fourni le mode d'emploi du génocide. Alors, vous imaginez bien que ces révélations sont une véritable bombe, sont quelque chose qui montre la dangerosité extrême de notre Ve République, qui est incapable de contrôler son armée, et ses services, puisque ce sont plutôt eux qui contrôlent souvent les politiques. Et évidemment, les contre-feux ont été allumés, donc vous ne vous étonnerez pas de voir paraître dans un organe qui s'appelle Le Monde et qui a fait le maximum de désinformation durant le génocide, de voir paraître un certain nombre d'articles qui visent à dévier la cible, c'est-à-dire à traiter d'autres problèmes. Je ne m'étendrai pas là-dessus, mais nous entrons au cœur d'une bataille idéologique fondamentale parce que nous allons découvrir, nous Français, que ce n'est pas seulement la guerre d'Algérie, mais que ça fait depuis 45 ans que nous sommes les champions du monde d'une doctrine militaire prônant la terreur de masse, la torture, les massacres. Il n'y a pas de quoi être fier. Et évidemment, on peut imaginer qu'il y aura des résistances extrêmes à cette révélation. Mais c'est le Figaro qui en parle. Enfin, c'est un journaliste du Figaro. Il risque sa place. Donc c'est difficile de dire que c'est quelque chose qui provient de quelques officines antimilitaristes, etc., etc. Ce sont des officiers eux-mêmes, écœurés par ce qu'on leur a fait faire, qui vont sortir ces révélations. Donc, la semaine prochaine, il va se passer des choses sur ces questions. Le Rwanda, ce n'est pas fini, et la complicité de la France dans cette affaire, encore une fois, c'est tellement abominable que c'est peut-être, à travers le scandale qui va surgir, je l'espère, le moyen d'en finir avec ces mécanismes de la France-Afrique. Tout cela a continué, et je vais prendre encore un ou deux autres exemples. Le Congo-Brazzaville. Le Congo-Brazzaville, c'est un pays formidable à plusieurs titres. D'abord, parce que on a fait une opération de magie extra. Vous avez un pays riche en pétrole. Vous pompez son pétrole. Et je vous dirai tout à l'heure que ce pétrole, en fait, l'argent du pétrole ne va quasiment pas ou très peu dans l'argent public, dans les caisses publiques de ce pays. Il est détourné de différentes manières, parce qu'une bonne partie n'est même pas déclarée. C'est pompé au large, et par conséquent, on ne sait pas combien on produit. Et un ministre des Finances du Congo m'a dit un jour, j'ai demandé à Elf combien ils avaient produit une année. Le responsable d'Elf a pris une feuille de papier, a écrit quatre chiffres, et m'a jeté la feuille de papier, d'un air de vous dire, écoutez, en gros, ça nègre, contentez-vous des chiffres que je veux bien vous donner, parce que je suis bon de vous les donner. Bon, c'est pour dire le mépris dans lequel sont tenues les autorités de ce pays. Donc, d'un côté, le pétrole est pillé, et de l'autre, on monte autour des ventes du pétrole futur, dans un an, deux ans, trois ans, quatre ans, cinq ans, dix ans, des mécanismes de prêts gagés, d'endettement, où donc on achète à l'avance le pétrole futur. Tout ça donne des prêts, de l'endettement, qui passent par 10 ou 15 paradis fiscaux, avec chaque fois des détournements, des commissions pour engraisser tout ce monde de la France-Afrique. Et donc, vous avez une dette qui mousse comme eux en neige. Vous partez d'une dette de 100, puis elle gonfle, elle devient 200, 300. Et finalement, vous arrivez à avoir une dette de ce pays qui est la plus forte du monde relativement à sa production, trois fois sa production annuelle. Et vous avez ce miracle d'avoir un pays qui a un plus qui est le pétrole et qui se retrouve avec trois moins, une dette égale à trois fois son PIB annuel. Et puis vous apercevez ensuite que une partie de cet argent a servi à payer les armes d'une guerre civile qui a détruit le pays, et même à fournir les armes aux deux camps de la guerre civile, ce qui est un classique. Donc, vous avez un plus le pétrole, qui est en train de disparaître, vous avez trois moins la dette, et vous avez la destruction du pays par la guerre civile, grâce à des armes fournies par la France. Alors vous allez dire, tout ça, c'est un concours de circonstances. Sauf que, dans l'envers de la tête, j'ai pu montrer que c'était le même homme, Jacques Sigolet, le bras droit d'André Tarallon, qui à la fois vendait le pétrole congolais, qui à la fois gérait en direct la dette du Congo, et qui à la fois s'occupait de payer et de faire acheter les armes. Donc c'est difficile de dire que tout ça ne relève pas d'une stratégie de domination et d'oppression. Alors, ce Congo, il est dirigé depuis le milieu des années 70, par un homme qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, très proche des services secrets français, et qui est vraiment l'ami de toute la classe politique française, tellement il a arrosé. Je ne connais pas d'équivalent dans l'ampleur du spectre politique français qu'il a réussi à séduire. Cet homme, il est très pratique, puisqu'il ne demandait pour son pays que 17% de l'argent du pétrole déclaré. Ce qui est évidemment très faible. Ce monsieur précieux a été bousculé par une conférence nationale souveraine, des sortes d'états généraux de la démocratie poussés par la population qui en avait assez au début des années 90. À ce moment-là, la France, plus exactement les réseaux Focard, Pasqua et ELF, ont organisé un coup d'état pour renverser le processus démocratique. On en a la preuve puisque tous les documents ont été retrouvés dans le coffre-fort d'Elfe lors d'une visite des juges Joly et Wilczynski. Ce coup d'État a échoué, il y a une constitution votée à presque l'unanimité, parce que les gens voulaient sortir de ce système dictatorial, un président élu, qui s'appelait Pascal Lissouba, qui n'était certes pas un saint, loin de là, mais s'il fallait renverser tous les présidents qui ne sont pas des saints, nous ne serions plus en démocratie depuis longtemps. Donc, Monsieur Sassou Nguesso se présente à cette élection, il obtient 17% des voix. C'est Monsieur 17%. 17% du pétrole, 17% des voix. Mais la France tient à Monsieur Sassou Nguesso, et donc pendant 4 ans, 5 ans, elle ne cesse de le financer, de lui faire sa propagande. Il a des réseaux de propagande très importants, de l'armée via son gendre, le Gabonais Omar Bongo, etc. Et finalement, d'arriver à pouvoir lui permettre de mener une guerre qui va le ramener au pouvoir. Dans cette guerre, essayez d'imaginer la coalition qu'il a fallu. Non seulement il s'était constitué des milices, non seulement il avait conservé un certain nombre d'attaches dans l'armée de gens qui étaient issus de sa région d'origine, mais il a été appuyé par la garde présidentielle de Mobutu qui venait d'être renversée, qui avait traversé le fleuve, Mobutu notre allié. Il a été appuyé par 1000 soldats tchadiens amené par des avions français, il a été appuyé par les restes de l'armée qui avait commis le génocide au Rwanda et qui, miraculeusement, était à Brazzaville, il a été aidé par des mercenaires français et autres, et comme cela ne suffisait pas, finalement, avec la bénédiction française, les Angolais, l'armée angolaise a déboulé et a renversé M. Lissouba. Donc, opération réussie, moyennant une conjonction de forces assez extraordinaire, pilotée, dirigée, bénie par Jacques Chirac, un grand ami de Denis Sassou Nguesso. Jusque-là, rien que de très normal, si je puis dire. Sauf que ce monsieur a recommencé ses pratiques de dictature, de pillage, et qu'il y a eu un début de rébellion à la fin de l'année 98. Et à ce moment-là, entre 98 et fin 99, il a déployé avec les mêmes, c'est-à-dire les résidus du pouvoir génocidaire rwandais, la garde présidentielle de Mobutu, l'armée angolaise, les mercenaires, les milices, un rouleau compresseur sur tout le sud du pays le plus peuplé, qui, en l'espace d'un an, a fait entre 50 000 et 100 000 morts, plusieurs dizaines de milliers de viols collectifs, plus de dégâts pendant la même année que le Kosovo, la Tchétchénie ou Timor-Est réunis. Regardez l'information que vous avez reçue sur ce qui s'est passé au Congo-Brazzaville, pays francophone, berceau de la France libre, l'un de nos principaux fournisseurs de pétrole. Regardez cela en comparaison de ce qu'on vous a dit sur le Kosovo, sur la Tchétchénie et sur Timor-Est, et vous aurez tout compris du fonctionnement des médias en France. Voilà, et pour finir, simplement, je dirais que le Congo-Brazzaville a été aussi un laboratoire des nouvelles tactiques d'utilisation des mercenaires. Ces mercenaires, il y en a de deux sortes. Il y a ce que j'appellerais les vrais faux mercenaires. Ce sont ces fameuses forces spéciales qui sont au cœur du soutien au génocide rwandais, environ 3000 hommes, qu'on appelle le commandement des opérations spéciales, et dont une partie est formée à l'action camouflée. Et donc ces gens-là peuvent, entre autres, se déguiser en mercenaires. Le ministre de la Coopération Charles Josselin a craché le morceau avec cette phrase tout à fait extraordinaire. Il a dû se repentir de l'avoir prononcée parce qu'évidemment elle ne nous a pas échappé. Il a dit, il y a vraiment beaucoup de confusion au Congo-Brazzaville, il y a trop de mercenaires français qui ont à peine eu le temps de quitter l'uniforme qu'ils portaient hier. Et qu'ils porteront demain, puisque ce sont simplement en quelque sorte des intérimaires du mercenariat. Et il y a tout ça au milieu d'une série de crimes contre l'humanité dont vous avez peut-être entendu parler, mais qui est resté pour l'essentiel assez peu connu. Et puis, vous avez les mercenaires au sens classique. Mais vous allez voir que ces mercenaires-là sont tout à fait instrumentalisés par les services secrets français. En fait, ces mercenaires, pendant longtemps, même encore maintenant, ont été pour la plupart enrôlés, encadrés dans la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, qui s'appelle le DPS, Département Protection Sécurité, qui regroupe un peu plus de 1000 anciens gendarmes, policiers, parachutistes, etc., et qui est le vivier, l'endroit où recrutent la quinzaine ou la vingtaine de sociétés de mercenaires en France. Et pour mieux comprendre comment ça fonctionne, je vous raconte très brièvement l'histoire de l'officier Bernard Courcel. Bernard Courcel appartient au plus secret des services secrets français, ce qu'on appelait la sécurité militaire et que maintenant on appelle la DPSD, Département Protection Secret Défense, qui sont en fait les services secrets de contrôle de l'armée et qui sont aussi l'endroit où l'on contrôle les trafics d'armes et les mercenaires. Ce monsieur a commencé sa carrière avec Bruno Gollnisch, autre officier de la DPSD, qui a fait une autre carrière par la suite. Monsieur Courcel, pour mieux contrôler les mercenaires, a créé sa propre société de mercenaires avec son frère, le groupe 11, qu'on retrouvera pendant une quinzaine d'années, y compris au Zaïre. 11, bon, je ne vais pas m'ouvrir à des interprétations, mais les spécialistes de l'extrême droite comprendront. Ensuite, ce monsieur est devenu le chargé de la sécurité de l'entreprise Luchère, qui, comme vous le savez, livrait pendant toute la guerre Irak-Iran des obus à l'Irak et à l'Iran, puisque la stratégie occidentale, c'était de faire durer la guerre le plus longtemps possible. Puis, après quelques épisodes, ce monsieur est devenu, en 1989 ou début 90, en quelque sorte, le garde du corps de Madame Mitterrand bis Anne Pinjot, qui était conservatrice au musée d'Orsay, et lui a été chargé de la direction de la sécurité du musée d'Orsay. Quand on sait les dizaines de millions de francs ou davantage, même beaucoup plus, dépensés par Mitterrand pour protéger sa vie privée, on imagine qu'il est difficile d'être plus proche du cœur du pouvoir. La preuve, c'est que à la fin de cette mission, fin 93, quand François Mitterrand et son conseiller Charles Pellegrini cherchaient quelqu'un pour diriger la garde présidentielle de Jean-Marie Le Pen, on a recouru à qui ? À monsieur Bernard Courcel, qui donc est passé de Madame Pinjot directement à la direction de la milice d'extrême droite, le DPS, où il a sévi pendant 4 ou 5 ans. Ensuite, il est devenu directeur brièvement de la garde présidentielle de M. Sassou Nguesso, qui venait de commettre une série de crimes contre l'humanité. Il a été auditionné par l'Assemblée nationale, qui a trouvé tout à fait remarquable qu'un professionnel aussi distingué assure la garantie des intérêts français au Congo-Brazzaville, puis il est devenu chargé de la protection, de la sécurité des installations pétrolières françaises au Gabon, encore un poste absolument marginal. Donc vous voyez, dans ce mélange de pétrole, d'extrême droite, de services secrets, de mercenaires, de trafic d'armement, vous avez, j'allais dire, une espèce de raccourci absolument incroyable du fonctionnement de la France-Afrique. Et tout cela se redouble des confessions de l'un de ces hommes, Claude Hermant, qui sont parus assez tard dans un documentaire à la télévision, je ne sais plus sur quelle chaîne, je crois que c'est France 3, qui expliquait comment ils étaient entraînés, une formation de commando, pour des opérations en Afrique, diverses, coups d'État ou autres, que quand ils étaient en France, ils assuraient la surveillance des opposants, voire les menaces physiques contre ces opposants africains en France, et que quand vraiment ils n'avaient plus rien à faire, on les envoyait dans des banlieues chaudes à travers la France pour y allumer des voitures et puis y attiser un peu la haine ethnique, parce qu'il n'y a pas de raison de perdre la main et de ne pas faire en Afrique ce qu'on ne peut pas faire en France, ce qu'on fait en Afrique. Ce qui m'étonne, parce que ça fait quand même plusieurs fois que je le dis, c'est qu'aucune association antiraciste ou qui œuvre dans les banlieues n'ait, à la suite de ce témoignage, porté plainte contre M. Courcelles et tous ces gens-là, qui, manifestement, n'ont qu'un objectif, qui est de mettre la France à feu et à sang. Ça mériterait une plainte. Et bon, passons. Je passe rapidement à l'Angola. J'aurai un peu de retard, mais j'ai beaucoup de choses à vous dire et je vais essayer de vous montrer le paysage dans son ampleur. L'Angola, qui est rendu célèbre par l'Angola Gate, et qui est en fait l'Arabie Saoudite, peut-être de l'Afrique, pour le XXIe siècle, il y a d'immenses gisements de pétrole au large de l'Angola. D'énormes patates d'or noir. Plus d'un quart de siècle, l'Occident, la France, les États-Unis, etc., ont entretenu, attisé la guerre civile, et on sait maintenant, nous l'avions écrit, mais ça a été confirmé au procès ELF, que la France finançait les deux côtés de la guerre civile. C'est un classique. André Tarallo, le monsieur Afrique, finançait le gouvernement, et Alfred Sirvin finançait les rebelles. Dans ce pays, il faut partager les risques des gisements d'or noir. Et donc, on crée pour chaque grand gisement, chaque bloc, comme on dit, un consortium. Dans ce consortium, vous avez 42,5% pour Total Elf. Je prends un exemple parmi d'autres, parce que chaque consortium, ça varie un peu. 42,5% pour une firme anglo-saxonne, par exemple Chevron, Shell, BP, etc., etc. Et puis là, vous vous apercevez que le discours du syndrome de Fashoda, de la France combattant l'impérialisme américain en Afrique, c'est quand même un peu une propagande à usage subalterne. C'est-à-dire que quand il s'agit de choses sérieuses, on s'entend. Le plus intéressant, c'est les 15% qui restent. Parce que vous avez 10% pour une firme qui s'appelle Falcon Oil. Alors, Falcon Oil, c'est M. Falcon qui a enlevé son nœud et qui, lui, l'ami de Pasqua, anti-américain, a créé cette société pétrolière aux États-Unis et a été le premier contributeur de la campagne électorale de George Bush à égalité avec le PDG d'Enron. Vous voyez, tout ça est un peu compliqué. Et puis, à côté, vous avez 5% pour une firme de mercenaires. Donc, vous vous apercevez que est inscrit quasi génétiquement dans l'exploitation du pétrole la fourniture de biens et services de guerre, puisque Falcon Oil, c'est en fait, ça déguise un marchand d'armes, et vous avez 5% pour une société de mercenaires. Durant toute l'exploitation, ce gisement, vous avez de l'argent qui sert à payer des armes et des mercenaires. Quand vous voyez ça, vous comprenez, vous commencez à comprendre pourquoi la quasi-totalité des pays pétroliers en Afrique et ailleurs sont des pays où règne la guerre civile. Vous commencez aussi à comprendre et à réaliser qu'il y a une espèce d'osmose permanente entre les armes et le pétrole. En fait, si vous regardez de près les principaux acteurs de l'Angola Gate, ce dont on a parlé à ces occasions, par exemple Falcon, Marchiani, Pierre Lethier, Tarallo, enfin tous ces gens-là, en fait, une bonne partie d'entre eux, je pense à Marchiani, je pense à Falcon, je pense à Pierre Lethier, tous ces gens-là, en fait, sont au moins autant, sinon plus, des marchands d'armes que des marchands de pétrole. Et l'affaire, elle, vous le savez, a été déclenchée par une affaire de vente d'armes à Taïwan. Alors là, ça ouvre premiers horizons. C'est qu'en fait, les armes et le pétrole, c'est la même chose. Pourquoi ? Parce que la question, c'est pas tellement ce qu'on vend ou ce qu'on achète. La question, c'est comment on vend ou on achète. Et les armes et le pétrole, ce sont les lieux de prédilection de la grande corruption. C'est-à-dire que les détournements, la corruption, ça représente, selon les cas, 10, 15, 20, voire 50% de l'argent, du pétrole ou des armes. Et donc, pour être un vendeur d'armes ou un acheteur de pétrole ou réciproquement, la compétence à avoir, c'est de connaître par cœur les mécanismes des paradis fiscaux. C'est-à-dire savoir comment on distribue discrètement des commissions, et donc c'est connaître la tuyauterie des paradis fiscaux. Donc, les marchands d'armes et de pétrole sont souvent à peu près exactement les mêmes. Et puis quand vous regardez ces gens-là, dont je viens de vous parler, vous vous apercevez qu'ils ne sont pas seulement dans les armes et dans le pétrole, mais qu'ils sont tous soit de hauts responsables des services secrets, soit ce qu'on appelle des honorables correspondants des services secrets. C'est-à-dire que Lethier, Marchiani, tout ça, ce sont des gens qui sont dans les services. Et donc vous commencez à franchir un cap supplémentaire, et vous comprenez que les services secrets occidentaux et autres, qui avouent tout bonnement qu'aucun gouvernement démocratique n'a le courage de leur voter l'argent qu'ils méritent, eh bien, se servent sur la bête. Et où peut-on le mieux se servir? Notamment dans les sommes considérables de corruption, de détournement, de bakchiche, de rétrocommission qu'il peut y avoir dans le commerce des armes et dans les affaires pétrolières. Et donc, il y a une bonne partie de cela qui est prélevée pour les bonnes œuvres, entre guillemets, des services secrets divers. Et puis, quand vous regardez de plus près tout ce mécanisme, vous vous apercevez que la banque, une des banques qui faisait ces transactions, qui s'appelle la FIBA, qui a été remplacée depuis par une autre, eh bien, que cette banque est aussi la banque de la Corse-Afrique des Jeux Paris et Casino, c'est-à-dire cet énorme réseau qui a investi l'Afrique de loterie, de PMU, etc., etc., et dont beaucoup de spécialistes s'accordent à dire que c'est un formidable instrument de blanchiment. Donc, vous vous apercevez que ce triptyque armes, pétrole, service secret est en fait branché sur un tas de trafic, et puis je pourrais m'étendre longuement parce que c'est pas seulement les problèmes de blanchiment, mais c'est aussi les trafics de drogue, les trafics de fausses monnaies, etc. Tout ça se trouve en partie dans nos dossiers noirs. Donc vous avez un espèce de système complet avec les liens entre les services secrets et les trafics mafieux, avec les systèmes de la grande corruption, qui, bien entendu, permettent de s'attacher la quasi-totalité des gouvernants correspondants, puisque les sommes qui sont versées à ces dirigeants, que ce soit Bush, Chirac ou les autres, sont absolument fabuleuses. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'on a assisté pour la première fois en Angola à la démonstration du passage de la France-Afrique à la mafia-Afrique. C'est-à-dire que vous avez là, dans l'affaire angolaise, toute une hiérarchie de responsables. Vous avez Jean-Christophe Mitterrand, le garçon de course, qui touche 13 millions de francs en Suisse. Vous avez Pierre Falcon, qui gère quelques milliards de francs, et vous avez Guédamac, dont les sommes gérées tournent autour de la centaine de milliards de francs, enfin des sommes dont on commence à plus très bien savoir, lui pauvre interprète il y a 20 ans, combien il gère. Alors pour comprendre, bref retour en arrière sur quelque chose qui n'a apparemment rien à voir mais qui est décisif. À la fin des années 80, les soviétiques pressentent la chute du mur et une partie du KGB et de l'oligarchie, de la nomenclature russe, commence à créer en Suisse et dans d'autres paradis fiscaux des centaines de sociétés écrans, et entre 1989 et 1993, vont se mettre à brader, avec l'aide de Paribas, grand spécialiste en la matière, et de Mark Rich, intermédiaire central de tout ce genre d'opérations, se mettent à brader leurs immenses stocks stratégiques de diamants, d'aluminium, d'engrais, d'armes, etc., à 10% de sa valeur, et mettent le reste, une partie de la différence, dans ces fameuses sociétés écrans, pour constituer une cagnotte qui est évaluée de plusieurs sources à 500 milliards de dollars. Ces 500 milliards de dollars, c'est ce qu'on appelle le trésor de la mafia russe. On appelle ça la mafia russe, mais cette mafia russe, c'est en fait pratiquement toute l'économie et la politique russe, puisqu'avec cet argent, ils ont racheté toute la Russie. Ils ont d'abord racheté la Russie, toute l'économie russe, les banques, etc. Et puis ensuite, ils ont racheté une partie de la Côte d'Azur, et ils ont racheté la plus vieille banque américaine. Alors là, les Américains, ils ont dit quand même, on n'a pas passé tant de temps à essayer de venir à bout de l'Union soviétique pour que les joueurs d'échecs de la mafia russe ne viennent se mettre à conquérir notre économie en comprenant mieux que nous nos règles du jeu. Donc, il y avait un monsieur Gordokovsky qui était à la pointe de cette affaire, grand ami d'Arkady Guédamac, le monsieur de l'Angola Gate. On lui a dit, mais monsieur, là, vous seriez pas, par hasard, l'ingénieur de la disparition des 10 milliards de francs du FMI, des 10 milliards de dollars du FMI qu'on avait prêté à la Russie. Le FBI a été chargé d'enquêter, 3 mois à peu près. Et puis, on a oublié cette affaire. Vous savez, il y a des pays qui sont dans la misère la plus extrême depuis des décennies parce qu'ils doivent 10 milliards de dollars, mais les 10 milliards de dollars en question, le FBI s'est arrêté d'essayer de savoir où ils étaient. Monsieur Khodorkovsky s'est transformé en principal pétrolier russe. Il a fondé une fondation pour une Russie ouverte, dans laquelle sont entrés Monsieur Kissinger, le baron Rothschild, etc. C'est-à-dire qu'en fait, les plus hautes instances occidentales sont venues bénir Monsieur Khodorkovsky d'avoir volé 10 milliards de dollars du FMI et aussi de s'être approprié de manière frauduleuse une partie de l'économie russe. Parce qu'en même temps, il s'apprêtait à devenir également le principal partenaire pétrolier russe des États-Unis. Voilà comment les choses fonctionnent. M. Khodorkovsky a été arrêté et il a été promu par certains journaux comme un héros de la démocratie en Russie. Ce n'est pas tout à fait exact. M. Guédamac est en fait le partenaire, le vieil associé, le vieil ami de M. Khodorkovsky. Et donc, il est en quelque sorte l'un des portiers de cette cagnotte dont je vous ai parlé. Quand vous regardez de près l'affaire de l'Angola Gate, vous vous apercevez que M. Guédamac est protégé par l'ex-KGB russe, par la DST française et le Mossad israélien. Tandis que M. Falcon est protégé par la DST française et par la CIA. Donc le tandem à lui seul couvre une grande partie des intérêts du G8, si je puis dire, parce que la Chine est en train de rattraper tout ça à grande allure. Donc vous avez, à travers cet exemple de l'itinéraire de M. Guédamac et de l'Angola Gate, la démonstration que les fameuses cagnottes de la France-Afrique, qui étaient en quelque sorte franco-françaises, sont en train de s'internationaliser et qu'il y a une espèce de pot commun qui est en train de se constituer entre la France-Afrique, ses équivalents américains, britanniques, russes, sud-africains, brésiliens, etc. C'est-à-dire que l'international du pillage, des détournements, des bakchiches, des commissions, de la grande corruption est en train de se constituer, bien entendu, beaucoup plus vite que la mondialisation des biens publics. À ce stade, je ne peux que vous recommander, pour ceux qui ne l'ont pas fait, mais je pense qu'on ne peut pas comprendre le monde aujourd'hui si on ne l'a pas fait, de lire au moins l'un des deux ouvrages de Denis Robert, Révélation ou La boîte noire. Parce qu'on comprend comment cette fameuse finance internationale qu'on considère comme quelque chose de totalement incompréhensible est quelque chose de finalement extrêmement simple à notre détriment. Denis Robert explique que, grâce aux confidences d'un initié, il explique que les plus grandes banques mondiales ont constitué une sorte de deux coopératives. L'une à Luxembourg, qui s'appelle Clearstream, et l'autre à Bruxelles. et que ces coopératives qu'on appelle aussi chambres de compensation, c'est-à-dire l'endroit où se croisent les carrefours de tous les flux financiers, brassent des centaines de milliers de milliards de dollars. Enfin, des chiffres avec tellement de zéros que plus personne ne s'y retrouve. Et surtout, que la moitié de l'argent des comptes qui se trouvent à Clearstream sont des comptes non déclarés dans des paradis fiscaux. Vous vous représentez les 100 et quelques plus grandes banques au monde ont la moitié de leurs comptes dans leurs coopératives communes qui sont non déclarées dans des paradis fiscaux. Aujourd'hui, selon les statistiques internationales, la moitié des transactions financières mondiales passent par les paradis fiscaux. Alors je pense qu'il faut que vous essayiez de réaliser ce que ça veut dire. Outre les transactions presque au black qui peuvent se faire entre banques par Clearstream. Qu'est-ce que ça veut dire fondamentalement? Nous ne sommes pas des puristes, nous ne considérons pas qu'on peut aller vers aucun vol, aucun crime, etc. Le problème, c'est qu'une société peut fonctionner si la criminalité, la tricherie, etc. représente une part relativement restreinte. Aujourd'hui, toutes les grandes banques françaises, qui sont toutes impliquées par exemple dans le pillage du Congo et de l'Angola, toutes ces grandes banques ont un pied dans le formel, le contrôlable, et l'autre pied dans les paradis fiscaux, l'informel, l'incontrôlable. Ça veut dire qu'elles peuvent faire ce qu'elles veulent. C'est-à-dire quand elles ont envie d'afficher leur respectabilité, elles sont dans les pays où il y a du contrôle, et quand elles ne veulent pas afficher leur responsabilité, elles sont sur l'autre pied, dans les paradis fiscaux, où elles peuvent faire exactement ce qu'elles veulent, puisque le but d'un paradis fiscal, sa seule fonction, c'est d'empêcher les juges d'aller voir et d'aller contrôler ce qui se passe dans les comptes. Et je dirais même plus, les paradis fiscaux, c'est une sorte de partie de bonneteau ou de miroir aux alouettes, puisque c'est tout simplement les grandes places financières de Londres, de Paris, de New York ou de Tokyo qui projettent en quelque sorte, une partie de leurs comptes dans des pays comme les îles Caïmans, l'île Niue qui a une baraque en tout et pour tout, etc. Et bien sûr, les opérations ne se font pas là. Mais on projette les comptes et l'argent dans des pays soi-disant inaccessibles et qui seraient devenus de féroces gardiens du secret bancaire, tout simplement pour faire échapper une partie de l'argent à tout contrôle démocratique, à tout contrôle public et permettre de développer dans des proportions considérables, la grande corruption, les moyens de domination, et puis aussi l'argent qui était autrefois celui de la guerre froide et qui est maintenant celui de la nouvelle guerre froide qu'on vient d'instaurer, qui est la guerre froide contre le terrorisme. À ce propos, je vous signale que ces paradis fiscaux développés entre autres pour les besoins d'argent considérables de la première guerre froide ont recruté en 1980, ce système-là a recruté M. Oussama Ben Laden pour aller gérer une partie de ce système en fournissant des armes dans le combat anticommuniste en Afghanistan. Et donc M. Ben Laden est devenu un grand spécialiste de ce système. Et il ne faut pas s'étonner que par la suite, il ait mis sa compétence au service d'autres usages. Donc on a un parfait effet boomerang en l'occurrence. Je change complètement de registre et je passe à des choses très positives. Et j'ai pratiquement fini. En fait, il faudrait que je le développe malheureusement beaucoup plus longtemps, parce que je ne suis pas aussi pessimiste que ça n'en a l'air. Il y a dans l'histoire de nos peuples, il y a aussi tout un tas de dynamiques positives. Il y a par rapport à ces mécanismes de raison d'État, de pratiques militaires ou des services insupportables. Il y a eu, par exemple, le combat de l'affaire Dreyfus, où les Dreyfusards ont fini par gagner, même si cette victoire n'est que provisoire. Et puis, il y a eu surtout, dans notre histoire, quelque chose d'assez extraordinaire, qui s'appelle la construction des biens publics. En 1815, à peu près, à la sortie de Napoléon, il y avait en France, dans le PIB, dans la production nationale, il y avait à peu près 15% de biens publics. C'était quelques routes, c'était une police, la justice relative, l'armée, etc.
Aujourd'hui, après, à partir de 1960, après un siècle et demi de mouvements sociaux, de combats pour la dignité, on est arrivé à mettre dans les biens publics à peu près 45% de la production annuelle et à y inclure le droit à la santé, le droit à l'éducation, un petit bout de droit au logement, le droit à la retraite, au congé, tout un tas de dispositifs qui sont garantis par la puissance publique, qui sont financés par l'argent public et qui, quand même, changent un peu la vie. Bon. Reportez-vous au fonctionnement de 1815, la vie pour les accidentés du travail, pour les pauvres, etc., le niveau des soins en France, c'était quand même pas terrible. Il y a eu toute une construction de solidarité qui s'est faite un peu à la fois et qui est quand même intéressante. Parce que, contrairement à ce qu'on peut penser, il n'y a plus un seul économiste qui croit aujourd'hui qu'il n'est pas nécessaire d'avoir des biens publics. La Banque mondiale a fait de longues études, très longues études, et a été obligée de conclure à la fin qu'un peuple bien éduqué et en bonne santé était plus efficace économiquement qu'un peuple malade et analphabète. C'est-à-dire que, en fait, dans toutes les statistiques internationales, en termes de développement humain, les peuples qui sont les plus avancés sont des peuples qui ont un haut niveau de bien public. Et tout ça peut se comprendre. C'est-à-dire qu'en fait, une société, ce n'est pas que de la marchandise, ce n'est pas que de la circulation instantanée de biens. Ça fonctionne aussi parce qu'il y a des gens qui tiennent debout, qui peuvent se faire confiance. Si tout et tous sont à vendre dans une société, 0% de bien public, ça veut dire que vous ne pouvez plus faire confiance à personne. Donc, en fait, chaque société projette aussi dans l'espace public un certain nombre de choses auxquelles elle tient plus que tout, qu'elle appelle des biens publics. C'est un mouvement politique. Alors, ces biens publics ne sont pas forcément identiques totalement d'une région à une autre, mais c'est un mouvement décisif dans la constitution des éléments de dignité de la personne et des collectivités dans une société. C'est un mouvement extrêmement important. Aujourd'hui, l'enjeu, ça consiste à faire la même chose à l'échelle mondiale. Parce que, là je ne vais pas non plus m'étendre, on a écrit un livre qui s'appelle « À la recherche des biens publics mondiaux, on peut changer le monde ». En fait, aujourd'hui, il y a des tas de problèmes qui vont plus pouvoir se régler à l'échelle nationale. Prenez les questions l'effet de serre, les problèmes de climat, les problèmes de pollution maritime, les problèmes de santé alimentaire, d'OGM, les problèmes d'épidémie, toutes ces choses-là ne peuvent plus se gérer seulement à l'échelle nationale. Penser qu'on va pouvoir simplement gérer la santé publique à l'échelle nationale, c'est devenu, pour toutes sortes de raisons, tout à fait impraticable en termes de perspective. Donc, aujourd'hui, on va être confronté, pour toutes sortes de raisons, à développer des biens publics à l'échelle mondiale, soit parce qu'on ne peut pas faire autrement, soit parce que, quelque part, on est tous obligés d'entendre cette lettre de deux jeunes Guinéens qui sont embarqués dans une soute d'avion il y a 4 ou 5 ans et qui sont morts de froid dans cette soute, cette lettre aux dirigeants d'Europe qui dit « Nous sommes des êtres humains, nous avons droit à l'éducation ». Cette lettre tout à fait prodigieuse, au point que des esprits malins ont dit qu'elle ne pouvait pas avoir été écrite par les personnes en question, ce qui est aussi une image du mépris habituel. Cette lettre exceptionnelle nous interpelle sur ce qui est en fait la seule charte et la seule constitution de l'humanité aujourd'hui, la Déclaration universelle des droits de l'homme, qui dit « Les êtres humains naissent libres et égaux en droit et en dignité ». Alors, ou bien on déchire cette déclaration, ou bien quelque part, on est obligé de commencer à se battre pour construire des biens publics à l'échelle mondiale. Ce qui est intéressant de voir dans cette notion de bien public, c'est qu'elle introduit la notion mathématique de jeu à somme positive. Il y a en mathématiques des jeux à somme nulle, qui sont les jeux classiques. Quand vous êtes petit, que vous jouez à la bataille, toutes les cartes que vous prenez aux autres, ou à l'autre, l'autre les perd. C'est-à-dire que la somme globale de ce qui est gagné ou perdu, elle est identique. Ça, ce sont les jeux élémentaires. Mais en fait, dans la société, il y a un certain nombre de jeux où on est deux, on se retrouve trois, etc. Je pourrais faire des tas de dessins, des jeux assez intéressants d'ailleurs, que ce soit dans les domaines économiques ou autres, où en fait, le fait de se mettre ensemble produit des effets qui sont plutôt bénéfiques. Et quand vous regardez ce schéma, vous vous apercevez que les, y compris les disponibilités privées de la privée, les 55% qui sont ici, sont beaucoup plus importantes que les 85% qui sont ici. Parce qu'entre-temps, le développement des biens publics a eu aussi un effet démultiplicateur.
Tout ça est très sommaire, mais ça vous montre qu'une vision malthusienne des choses, qui consiste à dire on ne peut pas faire de biens publics parce qu'on n'aura pas l'argent, est en fait, dans l'histoire, totalement erronée. Et par conséquent, si nous commençons à nous battre avec ceux qui sont privés de biens publics à l'échelle de la planète pour développer des biens publics à l'échelle mondiale, qu'est-ce que nous allons faire? Nous allons à nouveau développer des jeux à somme positive. C'est ce qui se passe quand des gens se battent pour qu'on puisse soigner les malades du sida à travers la planète. C'est ce qui se passe quand on crée la Cour pénale internationale. Quand on commence à se battre sur ces questions de biens publics à l'échelle mondiale, en fait, on est en train aussi d'assurer l'avenir de nos propres biens publics. Et alors je termine maintenant, et ça va être extrêmement simple. Vous vous apercevez que tout le pillage et l'oppression de ces pays du Sud et de l'Afrique, qui passent par les paradis fiscaux, je n'ai pas le temps de vous le développer, mais si vous suivez l'affaire Elf, toutes les lignes, vous trouvez un paradis fiscal. Et bien que ces mécanismes-là, ils sont aussi en train de nous agresser à une rapidité extraordinaire, parce que si même un Jean-Christophe Mitterrand qui plaide les innocents est capable de planquer 13 millions de francs en Suisse pour ne pas payer d'impôts, ça veut dire qu'il n'y aura bientôt plus que les pauvres et les imbéciles pour payer leurs impôts, c'est-à-dire que cette bulle-là, tout ce qui concerne l'argent public, va se dégrader à toute allure. Il n'y a pas une seule entreprise ou un seul riche particulier qui ne reçoive toutes les semaines des fax ou des mails leur expliquant comment ne pas payer d'impôts, ou pratiquement très peu. Et par conséquent, la surenchère fiscale, comme on dit, c'est pas passé de 45% à 30%, c'est passé de 45% à zéro, puisque dans les paradis fiscaux, c'est zéro. Et par conséquent, le problème des biens publics à l'échelle mondiale, c'est aussi le fait qu'on ne peut plus payer les chercheurs, qu'on ne peut plus payer les intermittents, qu'on ne peut plus payer les enseignants, etc. Et cela va aller infiniment plus vite que vous ne le pensez. Par conséquent, ceux qui avaient un peu perdu leur boussole militante peuvent se rendre compte qu'aujourd'hui, nous avons un adversaire commun, qui est les paradis fiscaux, par où passe toute la stratégie à la fois de destruction des biens publics et de gestion, j'allais dire parallèle, à travers tous les mécanismes que je viens de vous décrire, et que nous avons en face un objectif commun au nord et au sud, qui est la construction et la reconstruction des biens publics et des biens publics à l'échelle mondiale, et que ça, c'est un jeu à somme positive. Et donc, nous avons une stratégie qui n'est pas seulement une stratégie idyllique, parce qu'il y a aussi des adversaires, il faut connaître ses adversaires pour pouvoir promouvoir ses biens publics à l'échelle mondiale. Merci.